Groupe de travail Lutetium Paris, Jacques Lacan, Le Symptôme. Leçon du 13 janvier 1976, enregistrée le 30 novembre 2002.
Lacan, séminaire du 13 janvier 1976, Le Symptôme.
On est responsable. Que dans la mesure de son savoir-faire. Qu'est-ce que c'est que le savoir-faire? Disons que c'est l'art. L'artifice. Qui donne à l'art dont on est capable une valeur remarquable. Remarquable en quoi? Puisqu'il n'y a pas d'autre de l'autre pour opérer le jugement dernier. Du moins, moi qui l'énonce ainsi. Ceci veut dire qu'il y a quelque chose dont nous ne pouvons jouir. Appelons ça la jouissance de Dieu. Avec le sens inclus là-dedans de jouissance sexuelle. L'image qu'on se fait de Dieu implique-t-elle ou non qu'il jouisse de ce qu'il a commis en admettant qu'il existe? Y répondre qu'il n'existe pas tranche la question en nous rendant la charge du d'une pensée. Dans l'essence et de s'insérer dans cette réalité première approximation du mot réel qui a un autre sens dans mon vocabulaire dans cette réalité limitée qui s'atteste de l'existence écrite de la même façon, EX trait d'union S de l'existence du sexe. Voilà. C'est le type de choses que, en fin de compte, je vous apporte en ce début d'année, à savoir ce que j'appellerais, c'est pas plus mal comme ça pour un début d'année, ce que j'appellerais des vérités premières. Non pas bien sûr que dans l'intervalle qui nous a séparés depuis quelque chose comme maintenant plus de 3 semaines. Non pas que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé à des trucs dont vous voyez là sur le tableau un échantillon. Je suis, comme vous pouvez le voir, est un nœud borroméen. Il ne diffère de celui que je vous rappelle, je dessine d'habitude, je vais poser comme ça. Il n'en diffère que quelque chose qui n'est pas négligeable. Et celui-ci peut se distendre de façon telle qu'il y ait deux extrêmes. Comment et que ce soit celui qui est dans le milieu qui fasse le joint. La différence est celle-ci. Supposez que ce soit 3 éléments comme celui-là, médian, qui s'unissent de façon circulaire. Vous voyez bien, j'espère, comment ça peut se faire. Il n'y a pas besoin que je vous trace le truc au tableau. Eh bien, ça s'unit comme ça. Comme ça, parce que c'est le même. Naturellement, c'est pas de ça seulement que je me contente. J'ai passé mes vacances à en élucubrer bien d'autres. Dans l'espoir d'en trouver un bon qui servirait de support. Support, j'entends, aisé. Est-ce que j'ai commencé aujourd'hui de vous raconter comme vérité première? Eh bien, chose surprenante, ça ne va pas tout seul. Non pas que je crois que j'ai tort de trouver dans le nœud ce qui supporte notre consistance. Seulement, c'est déjà un signe que ce nœud, je ne puisse le déduire que d'une scène. À savoir de quelque chose qui n'est pas du tout de la même nature. Chaîne ou link, en anglais, c'est pas la même chose qu'un nœud. Mais reprenons le ronron des vérités dites premières, dites par moi comme telles. Il est clair que l'ébauche même de ce qu'on appelle la pensée, tout ce qui fait sens dès que ça montre le bout de son nez, comporte une référence. Une gravitation à l'acte sexuel, si peu évident que soit cet acte. Le mot même d'acte implique la polarité active-passive. Ce qui déjà est engagé dans un faux sens. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Avec cette ambiguïté, que l'actif C'est ce que nous connaissons. Mais que nous nous imaginons que faisant effort pour connaître, nous sommes actifs. La connaissance, donc, dès le départ, se montre ce qu'elle est, trompeuse. C'est bien en quoi tout doit être repris au départ, à partir de l'opacité sexuelle. Je dis opacité, en ceci, c'est que premièrement, nous ne nous apercevons pas que du sexuel, ne font dans rien quelque rapport que ce soit. Ceci implique, au gré de la pensée, qu'il n'y a de responsabilité en sens où responsabilité, ça veut dire non-réponse. Ou réponse à côté, il n'y a de responsabilité que sexuelle. Ce que dont tout le monde, en fin de compte, a le sentiment. Mais par contre, que ce que j'ai appelé le savoir-faire, va bien au-delà. Et y ajoute l'artifice que nous imputons à Dieu, tout à fait gratuitement. Comme Joyce. Comme Joyce y insiste, parce que c'est un truc qui lui a chatouillé quelque part, ce qu'on appelle la pensée. C'est pas Dieu qui a commis ce truc qu'on appelle l'univers. On impute à Dieu ce qui est l'affaire de l'artiste. Dans le premier modèle, comme chacun sait, le potier. Et qu'on dit que, avec quoi d'ailleurs, il a moulé comme ça, ce truc qu'on appelle, pas par hasard, l'univers, ce qui ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a de l'un. Il y a de l'un, mais on ne sait pas où. est plus qu'improbable. Cet un constitue l'univers. L'autre de l'autre réel, c'est-à-dire impossible, c'est l'idée que nous avons de l'artifice en tant qu'il est un fer, F-A-I-R-E, écrivez pas ça F-E-R, un fer qui nous échappe, c'est-à-dire qui déborde de beaucoup la jouissance que nous en pouvons avoir. Cette jouissance tout à fait mince, c'est ce que nous appelons l'esprit. Tout ceci implique une notion du réel bien sûr. Bien sûr qu'il faut que nous la fassions distincte du symbolique et de l'imaginaire. Le seul ennui, le cas de le dire, vous verrez tout à l'heure pourquoi, c'est que le réel fasse sens dans cette affaire. Alors que si vous creusez, enfin, que je veux dire par cette notion du réel, il apparaît. C'est pour autant que il n'a pas sens, qu'il exclut sens, ou plus exactement qu'il se dépose dans l'être exclu, que le réel se fonde. Voilà. Je vous raconte ça comme je le pense. C'est pour que vous le sachiez, que je vous le dis. La forme la plus dépourvue de sens de ce qui pourtant s'imagine, c'est la consistance. Rien ne nous force à imaginer la consistance, figurez-vous. C'est là un bouquin qui s'appelle Surface and Symbol, qui ajoute que c'est une étude, il faut bien le savoir, car sans sous-titre, comment le saurait-on, qui ajoute The Consistency of James Joyce Ulysses. Par R. Robert M. Adams. il y a là comme quelque chose, comme un pressentiment, la distinction, l'imaginaire et du symbolique. À preuve, un chapitre où, après avoir intitulé le livre Surface and Symbol, un chapitre tout entier qui s'interroge, je veux dire qui met un point d'interrogation sur Surface or Symbol. Surface ou symbole. La consistance, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui tient ensemble. Et c'est bien pour ça que c'est symbolisé dans l'occasion par la surface. Parce que pauvre de nous, nous avons idée de consistance que de ce qui fait sac ou torse. C'est la première idée que nous en avons. Même le corps, c'est comme peau. Retenant dans son sac un tas d'organes, que nous le sentons. En d'autres termes, cette consistance montre la corde. Mais la capacité d'abstraction imaginative est si faible que de cette corde montrée comme résidu de la consistance, que de cette corde elle exclut le nœud. Oh, c'est là-dessus, peut-être, que je veux apporter le seul grain de sel dont, en fin de compte, je me reconnais responsable. Dans une corde, le nœud est tout ce qui existe au sens propre du terme, tel que je l'écris, et tout ce qui existe à proprement parler. Pas pour rien. Je veux dire, ce n'est pas sans cause cassée que j'ai dû pour ce nœud y ménager un accès. Commencer par la chaîne. Où il y a des éléments qui sont distincts. Éléments qui consistent alors en quelque forme de la corde C'est-à-dire, ou bien, en tant que... Que c'est une droite. Que nous devons supposer infini pour que le nœud ne se dénoue pas. Ou bien en tant que ce que j'ai appelé ronde-ficelle. Autrement dit, corde qui se noue à elle-même, ou plus exactement qui se joint d'une épissure. De façon à ce que le nœud, à proprement parler, n'en constitue pas la consistance, parce qu'il faut tout de même distinguer consistance et nœud. Le nœud existe à l'élément corps. Corde consistante. Un nœud donc ça peut faire. C'est bien pour ça que j'en ai pris le cheminement de raboutage élémentaire. J'ai procédé comme ça parce que il m'a semblé que c'était le plus didactique. Vu la mentalité. Il n'y a pas besoin de dire plus. La sentimentalité. Propre au parler. La mentalité en tant que, puisqu'il la sent, il en sent le fardeau. La mentalité en tant qu'il ment. C'est un fait. Qu'est-ce qu'un fait? C'est justement lui qui le fait. Il n'y a fait que du fait que le par-être le dise. Il n'y a pas d'autre fait que ce que le par-être reconnaît comme tel en les disant. Il n'y a de fait que d'artifice. Et c'est un fait qu'il ment, c'est-à-dire qu'il instaure dans la reconnaissance de faux faits. Ceci parce qu'il a de la mentalité. C'est-à-dire de l'amour propre. C'est le principe de l'imagination. Il adore son corps. Il l'adore. Parce qu'il croit qu'il l'a. En réalité, il l'a pas. Mais son corps est sa seule consistance. mental, bien entendu. Son corps fout le camp à tout instant, hein. C'est déjà assez miraculeux qu'il subsiste durant un temps. Le temps de cette consommation qui est de fait, du fait de le dire, inexorable. Inexorable en ceci que rien n'y fait. Qu'elle n'est pas résorptive. C'est un fait constaté, même chez les animaux. Le corps ne s'évapore pas. Il est consistant. Et c'est ce qui lui est à la mentalité antipathique. Uniquement parce que elle y croit d'avoir un corps à adorer. C'est la racine de l'imaginaire. Je le pense, P-A-N-S. C'est-à-dire, je le fais penser, donc je le suis. C'est à ça que ça se résume. C'est le sexuel qui ment là-dedans. De trop s'en raconter. Faute de l'abstraction imaginaire dite plus haut. Celle qui se réduit à la consistance, car le concret, le seul que nous connaissions, c'est toujours l'adoration sexuelle, c'est-à-dire la méprise, autrement dit le mépris. Ce qu'on adore est supposé qu'on fait le pas de Dieu n'avoir aucune mentalité. Ce qui n'est vrai pour le corps considéré comme tel, je veux dire adoré, puisque c'est le seul rapport que le par-l'être a à son corps. Au point que quand il en adore un autre corps, c'est toujours suspect. Car cela comporte le même mépris véritable. Qu'il s'agit de vérité. Qu'est-ce que la vérité, comme disait l'autre? Qu'est-ce que dire comme le début du temps que je déconnais? On me reprochait de ne pas le dire. Qu'est-ce que dire le vrai sur le vrai? De faire rien de plus que ce que j'ai fait effectivement. Suivre à la trace le réel qui ne consiste qui n'existe que dans le nœud. Fonction de la hâte. Il faut que je me hâte. Naturellement, je n'arriverai pas au bout. Quoique je n'ai pas mes armes. Mais bouclez-le imprudemment. Ça veut simplement dire aller un peu vite. Le nœud peut-être que je fais à la suite de droite ou suite de gauche. Et peut-être un peu insuffisant. C'est même pour ça que j'en ai cherché où il y ait plus de croisements que ça. Maintenant, nous en au principe. Au principe qu'il faut en somme avoir trouvé. S'il était conduit par le rapport sexuel, c'est-à-dire par l'hystérie, en tant qu'elle est la dernière réalité perceptible, comme Freud l'a aperçu fort bien, la dernière hystérie, réalité sur ce qu'il en est. Du rapport sexuel, précisément. C'est là que Freud en a appris le béaba. Il n'a pas empêché de
poser la question des faits. Va-t-il là ?
Il faisait une erreur. Il pensait qu'il y avait Gaspard. Il y a Gaspard. W. Vef. Alors maintenant, quand même, je vais vous donner comme ça un petit goût à manger. Voilà. Je voudrais illustrer ça. Illustrer ça de quelque chose qui fasse support et qui est bien ce dont il s'agit dans la question. J'ai déjà parlé dans un temps de l'énigme.
J'ai écrit ça 30
un 10 petite. Il s'agit de l'énonciation et de l'énoncé. Une énigme, comme le nom l'indique, est une énonciation telle qu'on n'en trouve pas l'énoncé. Dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, celui d'R.M. Adams, plus facile, je l'espère, à trouver que ce fameux portrait de l'artiste assez Jungmann, que vous pouvez trouver quand même, à cette seule condition de ne pas exiger d'avoir au bout tout le criticisme que Chester Anderson a pris soin d'y rajouter. Surface and Symbol, c'est édité à Oxford University Press, c'est facile à avoir. Oxford University Press a aussi un bureau à New York. Bon. Alors, là, dans ce R.M. Adams, vous y trouverez quelque chose qui a son prix. C'est à savoir que dans les premiers chapitres de Ulysses, quand il va professer auprès de ce menu peuple qui constitue une classe, tu m'en souvenirais bon à traîner tes collègues. Joyce, c'est-à-dire non pas Joyce, mais Stephen. Stephen, c'est-à-dire le Joyce qui l'imagine. Et comme Joyce n'est pas un sot, qu'il n'adore pas. Bien là, loin de là. Zuvie qui parle de Stephen pour ricaner. C'est pas très loin de ma position quand même, quand je parle de moi. Quand je parle en tout cas de ce que je vous jaspine. Alors, en quoi consiste l'énigme ? C'est un art que j'appellerai d'entre les lignes. Pour faire allusion à la corde. On ne voit pas pourquoi. Les lignes de ce qui est écrit, ça ne serait pas noué par une seconde corde. Je me suis mis comme ça à rêver. Et je dois dire que tout ce que j'ai consommé d'histoire de l'écriture, voire de théorie de l'écriture, il y a un nommé Février qui a fait l'histoire de l'écriture, il y en a un autre qui s'appelle Gelb qui a fait une théorie de l'écriture. L'écriture, ça m'intéresse plus que je pense que... Comme ça, qu'historiquement... Historiquement, c'est par des petites... des petits bouts d'écriture qu'on est rentré dans le réel. À savoir qu'on a cessé d'imaginer. Que l'écriture des petites lettres mathématiques c'est ça qui supporte le réel. Mais, bon Dieu, comment ça se fait? Il franchit comme ça quelque chose qui... qui me semble... qui me semble, disons, vraisemblable. Je me suis dit que l'écriture, ça devait toujours avoir quelque chose à faire avec la façon dont nous écrivons le nœud. Il est évident que... Ça donne déjà un air. Ça veut dire quelque chose. Il y a tout de même beaucoup de rapport avec l'instance de la lettre telle que je la supporte. Et puis ça donne un corps comme ça vraisemblable à la beauté. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un nommé Hogarth qui s'était beaucoup interrogé sur la beauté et qui pensait que la beauté, ça avait toujours quelque chose à faire avec cette double inflexion. C'est une connerie, bien entendu. Mais ben, ça tendrait à rattacher la beauté à quelque chose d'autre qu'à l'obscène, c'est-à-dire au réel. Il n'y aurait en somme que l'écriture de Belle, ce qui pourquoi pas. Bon, mais revenons à Stephen, qui commence aussi par un S. Stephen, c'est Joyce, en tant qu'il déchiffre sa propre énigme. Il ne va pas loin. Il ne va pas loin parce qu'il croit à tous ses symptômes. C'est très frappant. Il a commencé bien avant. Il a crachoté quelques petits morceaux, enfin, des poèmes même. Ce poème, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais ça, il croit à des choses. Il croit à la conscience incréée de sa race. C'est comme ça que ça se termine, le portrait de l'artiste, comme considéré comme un jeune homme. C'est évident que ça va pas loin. Mais enfin, il termine bien. Oui, il y a Old Father, 27 avril. C'est la dernière phrase du portrait of an artist. Of the artist. Vous voyez, je fais le lapsus. portrait d'un artiste, As A Young Man. Alors qu'il se croyait The Artist, Old Father, Old Artificer, Stand me now and ever in good stead. Tenez-moi au chaud. D'alors et de maintenant. C'est à son père qu'il adresse cette prière. Son père qui, justement, se distingue d'être, bon, ce que nous pouvons appeler, enfin, un père indigne, un père carent. Celui que, dans tout Ulysses, il se mettra à chercher sous des espèces où il le trouve à aucun degré. Parce qu'il y a évidemment un père, quelque part, qui est Bloom. Un père qui cherche un fils, mais Stephen lui oppose un très peu pour moi. Après le père que j'ai eu, j'en ai soupé. Plus de père. Et surtout que ce Bloom en question n'est pas tentant. Mais enfin, il est singulier qu'il y ait cette gravitation entre les pensées de Bloom et de Stephen qui se poursuivent pendant tout le roman, et même au point que le Adams, dont le nom respire plus de vivrerie que Bloom, que le Adams soit très frappé de certains petits indices qu'il découvre. Qu'il découvre singulièrement comme étant par trop invraisemblable d'attribuer à Bloom une connaissance de Shakespeare que manifestement il n'a pas. Une connaissance de Shakespeare qui d'ailleurs n'est pas du tout forcément la bonne, quoi que ce soit celle que Stephen est. Parce que c'est supposé à Shakespeare des relations avec un certain herboriste qui habitait dans le même coin que Shakespeare à Londres, et que, malgré tout, ça, c'est vraiment pure supposition. Que la chose vienne à l'esprit de Bloom est quelque chose que qu'Adam souligne comme dépassant les limites de ce qui peut être justement imputé à Bloom. À la vérité, il y a tout un chapitre qui est celui dont je vous ai parlé, surface or symbol. Il y a tout un chapitre où il ne s'agit strictement que de ça. C'est au point qu'il culmine dans un bluffen, puisque tout à l'heure j'ai fait un lapsus, bluffen et stum. Bluffen et stum qui se rencontrent dans le texte. Et qui montre manifestement que c'est pas seulement du même signifiant qu'ils sont faits. C'est vraiment de la même matière. Iolysses, c'est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant. Et c'est bien ça qui est son symptôme. J'ai dit qu'il était le symptôme. Toute son œuvre en est un long témoignage. Exiles, c'est vraiment l'approche de quelque chose qui est pour lui, enfin, le symptôme central. Donc, bien entendu, dont il s'agit, c'est du symptôme fait de la carence propre au rapport sexuel, mais cette carence ne prend pas n'importe quelle forme. Il faut bien que cette carence prenne une forme. Et cette forme, c'est celle de ce qu'il noue à sa femme, à la dite Nora. À la dite Nora, pendant le règne de laquelle il élucubre les exiles, les exilés, comme on l'a traduit. Alors que ça veut aussi bien dire les exils. Exil, il ne peut pas y avoir de meilleur terme pour exprimer le non-rapport. Et c'est bien autour de ce non-rapport que tourne de tout ce qu'il y a dans Exiles. Le non-rapport, c'est bien ceci, c'est que il n'y a vraiment aucune raison pour qu'une femme, entre autres, il la tienne pour sa femme. Qu'une femme, entre autres, est aussi bien celle qui a rapport à n'importe quel autre homme. Et c'est bien de cet n'importe quel autre homme qu'il s'agit dans le personnage qu'il imagine. Et pour lequel, à cette date de sa vie, il sait ouvrir le soi de l'une femme en question, qui n'est autre dans l'occasion que Nora. Le portrait qu'il a fini à l'époque, celle que j'évoquais à propos de la conscience incréée de sa race, à propos de la conscience incréée de sa race, à propos de laquelle il invoque l'artificeur par excellence que serait son père, alors que c'est lui l'artificeur, que c'est lui qui sait ce qu'il a à faire, mais qui croit qu'il y a une conscience incréée d'une race quelconque, en quoi c'est une grande illusion. Qui croit aussi qu'il y a un book of himself. Quelle idée de se faire être un livre. Ça ne peut venir vraiment qu'à un poète rabougri. Un bougre de poète. Pourquoi dit-il pas plutôt qu'il est un nœud? Ulysse, venons-en là. Qu'on puisse l'analyser. Car c'est sans aucun doute ce que réalise un certain Fechner. Comme ça, pendant que je rêvais, j'ai cru qu'il s'appelait Fechner. C'était plus facile à écrire. Non, il s'appelle Fechner. C'est regrettable. Il n'est pas Fechner du tout. Il s'imagine qu'il est analyste. Il s'imagine qu'il est analyste parce qu'il a lu beaucoup de livres analytiques. C'est une illusion assez répandue parmi les analystes, justement. Et alors, il analyse Ulysse. Ça fait une impression absolument terrifiante. Contrairement à Sir Parson Kimball, cette analyse d'Ulysse, exhaustive naturellement, parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand on analyse un bouquin, n'est-ce pas ? Freud, quand même, a fait là-dessus des articles limités, n'est-ce pas, d'ailleurs. Mis à part Dostoïevski, il n'a pas proprement parlé, analysé de romans. Il a fait une petite allusion à le Rosmersholm d'Ibsen. Mais enfin, il s'est contenu. Ça donne vraiment l'idée que l'imagination du romancier, je veux dire celle qui règne dans Ulysses, est achetée au panier. C'est pas du tout, d'ailleurs, quelque chose qui soit mon sentiment, mais il faut tout de même s'obliger à y ramasser dans Ulysses quelques vérités premières, et c'est ce que j'abordais à propos de l'énigme. Voilà qu'à ses élèves propose le cher Joyce sous les espèces de Stephen, comme énigme. C'est une énonciation, ce coq crew. Le coq cria, the sky was blue. The bells in heaven, les cloches dans le ciel, were striking 11. Était sonnante 11 heures. Tis time for this poor soul. Il est temps pour cette pauvre âme to go to heaven. Je vous donne en mille quelle est la clé. Quelle est la réponse? C'est celle qu'après, bien sûr, toute la classe a donné sa langue au chat. Joyce fournit. The fox Then his grandmother under the bed. C'est le renard enterrant sa grand-mère sous un buisson. Ça n'a l'air de rien. Mais il est incontestable que, à côté de l'incohérence de l'énonciation, dont je vous fais remarquer que qu'elle est en vers, c'est-à-dire que c'est un poème, que c'est suivi, que c'est une création. À cause de ça, ce petit renard qui enterre sa grand-mère sous un buisson est vraiment une misérable chose. Qu'est-ce que ça peut avoir comme écho pour, je ne dirais pas bien sûr pour tous les gens qui sont dans cette enceinte, mais pour ceux qui sont analystes. C'est que l'analyse c'est la réponse à une énigme. Et une réponse, il faut bien le dire, par cet exemple, tout à fait spécialement conne. C'est bien pour ça que il faut garder la corde. Je veux dire que si on n'a pas l'idée de où ça aboutit, la corde, au nœud du non-rapport sexuel, On risque de bafouiller. Le sens. Ah, faudrait que je vous montre ça.
Le sens résulte d'un champ. Il n'y a pas d'autre de l'autre, tout au moins pas de jouissance. De l'autre de l'autre. Il faut bien que nous fassions la figure, quelque part, ici nommément, entre ce symbolique qui soit dans l'âme. C'est imaginaire. Bien sûr, ici, le petit artiste, la cause du désir. Ouais.
Il faut bien que nous fassions quelque part le nœud. Le nœud de l'imaginaire et du savoir inconscient. Que nous fassions ici quelque part. Tout ça pour obtenir un sens. Qui est l'objet de la réponse de l'analyste à l'exposé par l'analysant tout au long de son symptôme. Quand nous faisons cette épissure, nous en faisons du même coup une autre. Celle-ci. Entre précisément ce qui est symptôme et le réel. C'est-à-dire que par quelque côté, nous lui apprenons à épicer avec deux S, à faire épicure entre son symptôme et le réel parasite de la jouissance. Et caractéristique de notre opération. Rendre cette jouissance possible, c'est la même chose que ce que j'écrivais. Oui. C'est la même chose que d'ouïr un sens. C'est de suture et d'épissure qu'il s'agit dans l'analyse. Mais il faut dire que les instants, nous devons les considérer comme séparés réellement. Imaginaire, symbolique et réel ne se confondent pas. Trouver un sens implique de savoir quel est le nœud et de le bien rabouter grâce à un artifice. Faire un nœud avec ce que j'appellerais une chaîne borroméenne, est-ce qu'il n'y a pas là abus? C'est sur cette question que je laisserai pendant que je vous quitte. Je pourrai laisser le temps à ce cher Jacques Aubert, à qui je comptais de confier le crachoir pendant le reste de la séance, de vous parler maintenant. Il est temps que nous nous séparions, mais la prochaine fois, étant donné ce que j'ai entendu de lui, puisqu'il a eu la bonté de m'appeler vendredi par téléphone, étant donné ce que j'ai entendu de lui, je crois qu'il pourra, sur ce qu'il en est du Bloom en question, recevoir, mon Dieu, de quelqu'un qui n'est pas plus mal placé qu'un autre pour piger quelque chose à l'analyse, puisque c'est un juif. Sur ce Bloom et sur la façon dont est ressentie la suspension entre les sexes, celle qui fait que le nommé Bloom ne peut que s'interroger s'il est un père ou une mère.
L'accord sonore du 20 janvier 1976.
Il doit vous apparaître.
Je le suppose, si vous n'êtes pas trop arriéré pour ça, doit vous apparaître que je suis embarrassé de Joyce comme un poisson d'une pomme. C'est lié, évidemment, je peux le dire parce que je l'éprouve ces jours-ci journellement, c'est lié évidemment à mon manque de pratique. Disons, à mon inexpérience de la langue dans laquelle il écrit. Non pas que je sois totalement ignorant de l'anglais. Justement, il écrit l'anglais avec ses raffinements particuliers qui font que la langue anglaise, à l'occasion, la désarticule. Il ne faut pas croire que ça commence à Finnegan's Wake. Bien avant Finnegan's Wake, il a une façon de hacher les phrases dans Ulysses notamment. C'est vraiment un processus qui s'exerce dans le sens de donner à la langue dans laquelle il écrit un autre usage. Un usage en tout cas qui est loin d'être ordinaire. Ça fait partie de son savoir-faire et là-dessus, j'ai déjà cité l'article de Solers. Il ne serait pas mauvais afin que vous en mesuriez la pertinence. Alors, il en résulte que ce matin, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a une pratique bien au-delà de la mienne, non seulement de la langue anglaise, mais de Joyce nommément. Il s'agit de Jack Aubert et je vais, pour ne pas m'éterniser, je vais tout de suite lui laisser la parole puisqu'il a bien voulu prendre mon relais. Je l'écouterai avec toute la mesure que j'ai prise de son expérience de Joyce. Je l'écouterai. Et j'espère que les réflexions petites, n'est-ce pas, je ne lui conseille pas d'abréger, bien loin de là, les réflexions petites que j'aurai à y ajouter seront faites avec tout le respect que je lui dois pour le fait qu'il m'ait introduit à ce que j'ai appelé Joyce le symptôme. Dernier, Lacan a annoncé que Joyce se trouverait dans son cheminement. Le fait que je sois ici aujourd'hui ne signifie nullement que je me trouve sur ce chemin royal, n'est-ce pas ? Il faut tout de suite préciser que je suis plutôt sur les accotements. Et en général, vous savez pourquoi on les signale, les accotements, et que c'est plutôt des propos à la cantonnier que vous allez entendre. Il faut que je remercie Jacques Lacan de m'avoir invité à produire un travail bâclé. Bâclé, je précise, donc un travail pas bouclé. Pas bouclé du tout, pas bien fait, et pas, disons, articulé trop bien sur ce qu'il en est des nœuds. D'un autre côté, je voudrais indiquer que ce que je vais vous dire part d'un certain sentiment que j'ai eu de ce qui se faufilait dans le texte de Joyce, dans certains textes de Joyce, en certains points, qu'il s'agissait, semblait-il, de quelque chose que Joyce faufilait. Et cette conscience du faufil m'amène justement à ne pas insister sur ce qui pourrait faire, au contraire, pièce définitive. Pour situer le point dont je suis parti,